Je propose à chaque invité de se présenter à tour de rôle, voilà, rapidement, et je voudrais qu'ils répondent juste à une question très simple. Bon, la définition pour eux de la first party data, et dans quelle mesure eux, personnellement, dans leur société, ils y sont confrontés, et quel type de data ils utilisent. C'est juste pour comprendre un peu qui fait quoi. Je propose de commencer par Grégoire Gaffier. Alors, le casting, au passage, que vous avez vu, a un petit peu changé. Il y a des gens qui n'ont pas pu venir. Donc, voilà, on a changé un peu le casting, mais tous les gens qui sont là, sont confrontés et sont des experts sur le sujet. Grégoire Gaffier, je te propose de commencer, Reward Media. Voilà, juste
Oui.
2 minutes, tu te présentes et tu nous expliques en gros, comment tu te retrouves confronté à la first party data et qu'est-ce que ça veut dire pour toi.
Ok, bah bonjour à tous. Moi, je suis Grégoire, responsable de la monétisation chez Reworld, donc une équipe de 20 personnes qui gère notamment le programmatique, le trading desk interne et plein d'autres activités. Par rapport à la first party, chez Reworld, on a quand même pas mal d'abonnés, à savoir dans tout le groupe 2,5 millions d'abonnés et aussi une base CRM qui est assez grosse. Donc pour moi, c'est ça en gros la first data, c'est ce qui appartient aux médias et qu'on pourrait utiliser après. Après, je rajouterai quand même un petit truc chez nous. Alors c'est pas de la data à proprement parler, mais on utilise beaucoup un outil d'hypercontextualisation, pardon. Qu'on a créé et en réalité, du coup, nos contenus et comment on va les segmenter grâce à cet outil-là, c'est aussi utilisé comme de la data. J'entends par comme de la data pour faire du ciblage, ce qui est in fine et le but de la data. Donc voilà.
D'accord. Paul Ripard.
Paul,
TF1.
ouais, bonjour. Donc je suis Paul. Moi je travaille chez TF1, donc publicité. Donc je suis côté régie. Je travaille sur toutes les thématiques de data, donc un peu comme Grégoire sur la partie monétisation, un peu on va dire un vendeur de boulangerie. Donc j'essaie de transformer les cookies en euros. Et sur la first party, la first party data et on va dire quel type de data on utilise chez nous. On utilise beaucoup évidemment de données first, donc de données on va dire propriétaire à nous, celle de la consommation des sites un petit peu, mais également surtout celles qui viennent du login, base de 27 millions de logués chez TF1. Et on utilise aussi pas mal de données qu'on va aller piocher chez des partenaires. On travaille avec des gens dans le retail qui peuvent s'appeler Relevancy, on travaille avec des fichiers voitures qui sont ceux de la 3A, je travaille avec Rakuten, je travaille avec La Redoute. Donc beaucoup de first party déjà, notamment grâce à nos 27 millions de logués, mais également des données partenariales de seconde partie chez nous.
D'accord, merci Paul. On va tout de suite, de toute façon, tout à l'heure, on va tout de suite discuter de quel type de data on parle. Donc, on précisera tout ça. Laurent Pérez.
Oui, bonjour. Alors moi, je suis Laurent Pérez. Je travaille au sein de LiveRamp. Pour faire simple, LiveRamp, ça permet de connecter les marques ou les publishers avec les acteurs technologiques, quelle que soit l'action qu'ils souhaitent faire, que ce soit de la publicité ou même de la mesure. Et pour nous, la first party data, c'est tout simplement de la donnée collectée par le publisher pour le publisher, tout simplement. Après, pour rentrer un petit peu plus en profondeur et sans trop en dire par rapport aux autres sujets, on va plutôt se baser, nous, sur de la donnée loguée des publishers.
Voilà, et je pense que tu nous parleras peut-être d'ID aussi, d'ID unique, un petit peu, on verra.
Exactement.
Voilà, je m'en doute. Olivier Simonis.
Bonjour à
Quelle question?
tous.
Bonjour Olivier.
Voilà, donc merci, merci. Je suis donc Olivier Simonis, je suis le cofondateur et le CEO de Qualifio. Avant de fonder Qualifio, en fait, je travaillais dans les médias puisque j'étais directeur digital et marketing au sein du groupe Rossel, hein, qui est l'éditeur de La Voix du Nord, 20 minutes le soir en Belgique, etc. Alors Qualifio, c'est quoi? Donc, c'est pas un éditeur, c'est une plateforme technique, donc c'est un logiciel qui permet à des éditeurs, mais aussi à des grandes marques, de générer de la donnée à travers des mécaniques interactives, donc des expériences de type jeu concours, galerie photo, quiz, jeu animé, etc. Pour voilà mieux connaître ses audiences. Et donc Qualifio travaille avec à peu près 115 publishers à travers le monde, principalement en Europe, qui sont des journaux, des magazines, des chaînes de télé. En France, des gens comme Le Parisien, Le Point, TF1, France Télévisions, Prisma, etc. sont clients. Et donc pour nous, la first party data, c'est pas notre donnée, c'est la donnée que nos publishers arrivent à collecter à travers les expériences qu'ils mettent en place avec Qualifio. Et donc, quand on parle de first party data, ben, chez nous, c'est les données d'identification des participants, mais ça peut être des hobbies, ça peut être un profil de voyageur, ça peut être le nom d'un chien, ça peut être une intention d'achat, etc. Toutes ces données qui vont servir aux médias, mais aussi éventuellement à ses annonceurs. Et ça, on pourra y revenir.
D'accord, c'est clair. Ce que je vous propose, c'est on va discuter, on va faire deux temps. Premier temps, comment on travaille avec la first party data et de quoi on parle d'ailleurs le terme de first party data et de data en général. Et ensuite, une fois qu'on a fait le tour un petit peu de comment tout ça marche, ben comment on enrichit et comment un éditeur qui cherche à avoir des données qu'il n'a pas en natif est capable d'en générer, ce qui est l'autre partie du sujet. De manière très simple, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes qui circulent sur les données, surtout les données personnelles, etc. Est-ce que vous pouvez, alors je m'adresse en priorité aux éditeurs, enfin ceux qui travaillent plus côté éditeur, expliquer concrètement de quelle data on parle quand on parle de first party data et qu'on est éditeur. Concrètement, c'est quoi? C'est l'âge du capitaine? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça n'est pas? Vraiment concrètement en termes de données. Je sais pas, Laurent ou Grégoire? Grégoire ou Paul, comme vous voulez.
Bon, vas-y, j'y vais. Alors, c'est vrai que hein, si je reprends un peu le, je sais pas si c'est le vocable qu'on peut trouver sur la data, on entend souvent parler de trois types de data. Donc, la donnée first, celle qui est un peu, on va dire, propriétaire à l'éditeur. La donnée, on va dire, seconde partie, qui serait des données issues de partenariats. Et la donnée third partie, qui serait un peu un espèce de tout venant qu'on trouverait sur le marché, si je résume de façon un peu simple. Si on rentre juste sur la first party, de quoi on parle quand on est éditeur? Bah, c'est tout d'abord la donnée de consommation qu'on a sur ces sites. Hein, bah, quand les visiteurs arrivent sur vos sites, vous déposez du coup un identifiant pour pouvoir tracer ces personnes et regarder un peu ce qu'ils font. Donc c'est cette donnée de consommation qui est la donnée historique. Et après, notamment, nous, c'est ce qu'on a mis en place il y a 3 ans chez nous. L'autre grosse partie de data first party qu'on connaît chez nous et qu'on a fait du coup pour avoir de la data en plus, c'est la partie login chez nous. Et donc c'est via un formulaire demander des informations complémentaires. Et les informations complémentaires qu'on va donner, qui sont les informations très demandées par le marché de notre côté, donc ça va être le sexe et l'âge de la personne qui va arriver sur un site ainsi que son adresse email. Donc voilà, j'ai envie de dire first party, les informations qui appartiennent à l'éditeur, il y en a plusieurs. On pense évidemment à la consommation sur un site, mais ça peut être un peu plus large.
Grégoire, tu...
Non, bien sûr, pour nous, il y a la donnée de navigation aujourd'hui que je vois comme une first party. Et après, toutes les données qui sont issues de la partie CRM, donc forcément un email, et de la même manière que Paul, âge et sexe, qui sont dedans. Comme je disais tout à l'heure, on utilise aussi beaucoup le contextuel, nous. Donc, ce n'est pas vraiment de la first party data, mais en réalité, vu que c'est nos contenus, c'est les segments créé par rapport à nos contenus en croisant des données de mots-clés qui sont présents dans la page de champ sémantique, etc. On arrive à créer des segments. Et pour nous, ça aussi, c'est de la first party qu'on peut utiliser pour refiler. Et là, on peut aller un peu plus loin et ça peut être plus fin. Donc, on peut aller, voilà, genre, oublier une maman parce qu'on a du contenu sur la bronchiolite ou les maladies du nourrisson, etc. Et donc, créer des segments comme ça. Donc, on peut être un peu plus loin sur ce type de choses-là. Mais après, voilà, sur la partie first data, à proprement parler, comme les données CRM, on est sur la même chose que ce que Paul disait.
Je suis presque déçu. Ça veut dire que, d'un point de vue de données, on est dans un environnement où il y a beaucoup plus de données, on appelle ça contextuelles, ou des données analytiques, en fait, tout ce qui analyse le comportement d'un utilisateur sur le site, que des données personnelles sur l'utilisateur lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de données, par défaut, il n'y a pas de données intentionnistes, vous n'allez pas plus loin dans les formulaires quand vous posez des questions aux utilisateurs quand ils arrivent, ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive après une première connexion ou une première inscription?
Bah, je pense qu'après, il y a aussi, tout dépend du type de site que tu as. Hein. Si tu es un comparateur, on va dire que nativement, tu auras de la donnée d'intention. Si tu es un média généraliste, c'est naturellement un peu plus compliqué. Hein. Si tu es un média généraliste, tu vas d'abord travailler sur ta donnée de consommation. Après, quand je suis dans mon cas, hein, sur la donnée first party, je récolte le fait que tu regardes Koh-Lanta ou que tu regardes The Voice. J'ai envie de dire, so what, c'est super. Est-ce que publicitairement, ça va... Ça a un intérêt du coup assez peu, et c'est pour ça qu'on va aller essayer de rajouter une surcouche autre que la seule partie de de navigation et cette surcouche qu'on a mis de notre côté, c'est se dire quelle était la data la plus demandée par le marché, et c'est très clairement celle du sexe et âge, et c'est pour ça qu'on a rajouté nous clairement un login qui te demande obligatoirement, donne-moi ces deux parties, mais c'est faut d'abord prendre en compte les qualités intrinsèques à ton site. Si tu as de la chance d'être un comparateur, par exemple, effectivement, tu peux travailler sur l'intention. Si tu as un média un peu plus généraliste, ça peut être un peu plus compliqué.
D'accord. Donc finalement, un set de données personnelles assez faible, mais par contre enrichi par tous les données comportementales. S'il fallait résumer, c'est un peu la situation qu'on trouve en standard chez les éditeurs. Vous confirmez, Laurent ou Olivier, côté client, quand vous débarquez chez un nouveau client, il a au moins ça ou il y a d'autres scénarios?
Alors, pour parler pour LiveRamp, il a au moins ça, en fait. Il a au moins un email, parce que finalement, là, on parle de data, mais pour le coup, nous, on va répondre à une problématique, c'est comment opérer cette data au sein de l'écosystème. On y reviendra sans doute après. Mais pour le coup, concernant nos publishers, nous, ils ont au minimum une adresse email.
Par exemple. Ouais. Donc vous, le point de départ, c'est là. Bon, on ça suppose qu'il y a un compte créé, effectivement.
Exactement.
Olivier, même constat, quand oui. Vous intervenez, parce que vous, quelque part, vous intervenez, c'est justement pour faire du plus. Mais par défaut, c'est la configuration qu'on trouve chez la plupart des éditeurs.
Oui, tout à fait. Donc, il y a évidemment l'email. Je confirme que chez nos clients, il y a énormément de valeur à évidemment ajouter des données socio-démo comme l'âge et le genre. Hein. Donc, au niveau publicitaire, c'est des données qui vont évidemment avoir beaucoup de valeur. Alors, nous, ce qu'on fait aussi beaucoup avec nos clients, c'est générer des inscriptions newsletter. Ça, évidemment, à travers des mécaniques interactives, c'est justement générer cette inscription newsletter. C'est aussi, alors tout le monde n'a pas évidemment la chance d'avoir du contenu second screen ou du contenu en replay comme les chaînes de télévision pour générer énormément de login, mais on peut essayer de générer du login à travers des mécaniques interactives de type jeu concours, sondage, quiz, etc., où il y aura évidemment un échange de valeur. Ça fonctionne pas mal. Et alors, ce qui marche bien aussi, c'est toujours le contexte. Hein. On va parler, je crois, pas mal aujourd'hui du contexte, mais c'est d'arriver à créer des contextes qui font que on arrive à récolter une donnée beaucoup plus ciblée. Si, par exemple, quelqu'un fait un quiz ou un test de personnalité de 20 questions sur les vins de Bourgogne, on peut quand même s'imaginer que la personne est assez qualifiée, assez ciblée et va du coup avoir une appétence pour ce type de contenu.
D'accord. Donc ça fait des données supplémentaires. Eh bien, on va rentrer dans le cœur de la discussion, comment on travaille avec ces données, pour que ce ne soit pas abstrait. Paul ou Grégoire, concrètement, comment vous travaillez avec ces données? Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous les combinez? À quoi ça sert? Est-ce que c'est aussi simple que ça? J'ai regardé 3 articles sur le vin. Est-ce que je me retrouve catalogué amateur de vin? Est-ce qu'il y a des données qui sont calculées? C'est-à-dire, si je regarde du vin, je ne sais pas, ou je suis intéressé par les voitures, c'est une information que vous combinez? Est-ce que je suis en train de fantasmer? Comment vous travaillez avec les données? Encore une fois, avant de parler de l'enrichissement, comment au départ, vous cherchez à valoriser votre audience et vos pages avec ce type de données? Grégoire?
Non, carrément. Aujourd'hui, nous, en réalité, on a fait quelques tests sur la first party issue du CRM, etc. On n'est pas allé hyper loin dans le truc, dans le sens où on utilise beaucoup tout ce qui est contextuel et nos segments, etc. Donc, c'est là on l'utilise en réalité. Alors, ce n'est pas de la data pour en parler, donc c'est pour ça que c'est un peu particulier d'en discuter. On l'utilise pour segmenter et en gros, on répond aux briefs et on apporte des agences et de nos clients quand ils veulent faire du ciblage. Et on leur propose notre système qui est déjà cookie-less, etc., pour pouvoir segmenter notre audience. Et en réalité,
concrètement, tu peux nous donner des exemples juste pour comprendre, quand tu dis segment, moi, j'utilise des outils analytiques, j'ai une image dans ma tête de ce qu'est le segment, mais d'un point de vue d'usage publicitaire ou autre, concrètement,
très, très simple, ça peut être, en gros, beaucoup dans, imaginons, guérilla marketing. Un Renault qui veut communiquer sur des gens qui testent des modèles Peugeot, etc. Donc sur un site auto, on parle des essais, les articles qui parlent de Peugeot, on prend les mots, les modèles, les différents modèles qu'il peut avoir. Donc ça peut être l'étape première, et de communiquer sur les gens qui ont une Peugeot quand t'es Renault, par exemple.
Ça veut dire que là, tu fais à la fois de l'analyse sémantique sur les contenus, parce que là, tu viens de faire un bon.
Qui explique comment réparer un pneu sur ça, ou trouver des pièces détachées, etc. Voilà, ça, c'est un exemple bateau, parce que c'est le plus simple de guerrier marketing, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Et pareil, un laboratoire qui crée des produits type Mustela ou ce genre de choses, pouvoir cibler les jeunes mamans grâce au segment qu'on a créé, où il y a plusieurs mots qui se croisent, comme ce que je disais tout à l'heure, bronchiolite ou nourrisson, ou comment soigner son petit, asthme pour l'enfant, genre de choses.
Donc ça, c'est de l'analyse sémantique qui te permet de le faire.
Après, à la first party, on a testé les trucs, mais c'est vrai que c'est beaucoup difficile, aujourd'hui très difficile de pouvoir, avec les outils qui sont sur le marché, ou sinon, je n'ai pas très bien compris, pouvoir toucher 100% d'inventaire. Avec les données CRM, on peut peut-être toucher 15-20% au grand max. Donc, c'est sympa, mais en réalité, ça touche pas, ça permet de ne pas pouvoir toucher tout l'inventaire qu'on a. Alors qu'avec du contextuel, on peut toucher tout l'inventaire qu'on a, et en plus, on peut toucher dès la première impression et la première phase.
Question inverse, parce que je connais aussi mes classiques dans la publicité programmatique. On dit toujours que quand on commence à mettre plus de 2-3 mots-clés, c'est très sympa au niveau de la précision, mais tout d'un coup, les inventaires s'effondrent. C'est-à-dire,
voilà,
dans ta recherche, bah, tout simplement, en attendant, il n'y a peut-être plus beaucoup de pages et plus beaucoup d'utilisateurs à cibler. Comment tu gères ça ?
Les inventeurs le comprennent aussi. Hein. On est quand même loin d'il y a quelques années où on était dans l'ultra-ciblage. Les personnes qui ont leur frigo entre 20h30 et qui vont boire un coca. Ça, c'est un peu moins le cas. C'est quand même sur quelque chose de large. Les annonceurs et les agences comprennent un peu que l'ultra-ciblage, ça réduit quand même bien le pitch. Et qu'en réalité, il faut bien définir en amont de la campagne ce qu'on veut. Et ils sont au courant après sur du micro, du truc micro, on n'en a pas vraiment. Donc on reste quand même sur des choses un peu larges. Pas non plus. Pareil que pour le ciblage comme il est aujourd'hui.
D'accord. Et tu utilises, je crois que c'était Jérémy Parola chez vous qui expliquait ça. Lui, il est chargé de la monétisation, finalement, du yield. Ça peut être donc la publicité et l'abonnement. Ça veut dire que les mêmes segments ou ciblages publicitaires peuvent aussi être utilisés pour cibler des abonnés, des futurs abonnés, leur demander en tout cas à s'abonner.
Pour le coup, les abonnés, c'est un peu différent. Là, c'est pas la data contextuelle peut servir, mais moins. C'est pour ça, on peut séparer les deux. Sur la partie publicitaire, que je gère en plus en détail, la partie contextuelle est hyper importante. C'est mon, etc. Et pour moi, c'est aujourd'hui ce qui marche le mieux pour sortir de toutes ces histoires de data. Après, sur la partie CRM, gestion des subscriptions et abonnés, etc., clairement, il y a beaucoup plus de choses à faire avec la first party data, parce qu'on a quand même des infos sur des personnes qui aujourd'hui achètent ou donnent de l'argent une fois dans le groupe. Là, on imagine, aujourd'hui, on a 2,5 millions d'abonnés, tout groupe confondu. Si on arrive à les upseller, etc., ça peut vite devenir très gros. Donc oui, il y a beaucoup de travail à faire pour cette partie-là. Et là, c'est important d'avoir des data. Et pour le coup, les gens l'ont donné, sont inscrits chez nous et sont déjà clients, entre guillemets, si on voit ça comme un service.
D'accord.
Mais pour moi, c'est moins sur la publicité que ça aura un impact, plus sur l'upselling et comment faire grossir un parc d'abonnés et voir en gros ce nombre d'abonnés, le faire grossir et voir ça comme des gens qui sont inscrits à un service, donc leur proposer des choses en plus pour qu'ils restent ou pour qu'ils aient plus d'argent.
D'accord. Paul, chez TF1, tu te reconnais dans le même schéma ou comment ça se passe?
Chez TF1, nous, c'est vrai qu'on a franchement, on a vraiment de la chance, une super transformation data qui s'est opérée il y a 4-5 ans. En gros, on a eu l'arrivée d'un nouveau PDG qui a mis la data un peu au cœur de sa stratégie. Ça a été par, on va dire, deux gros éléments qu'il a mis en place. Hein. Premièrement, on va dire, c'est faire la carrosserie de la voiture. Donc, il nous a payé toutes les meilleures architectures qu'on peut avoir, des DMP, des data lakes, pas mal de data scientists. Donc, ça, c'était super. Et ensuite, on lui a demandé à mettre un peu d'essence dans la voiture, donc avoir de la data qui était assez exclusive. Donc, c'est passé du coup par un login obligatoire. Donc, ça a commencé comme ça. Ensuite, donc c'était très bien pour avoir du sexe et de l'âge. Hein. Donc, toute personne qui arrive sur TF1, bah, je peux maintenant les cibler par leur sexe et par leur âge, donc ce qui est assez intéressant. Ensuite, ça a continué par des acquisitions externes de sites très verticalisés pour évidemment avoir de la data en plus. Hein. Ça peut s'appeler Doctissimo, ça peut s'appeler Marmiton, par exemple. Donc, c'est évidemment, il y a l'achat d'un éditeur, mais il y a l'achat du coup de la donnée derrière pour qu'on puisse utiliser sur MyTF1. Et ensuite, ça a continué pour aller encore un peu plus loin là-dessus avec des gros partenariats avec différentes sociétés, comme je disais. On a pu travailler maintenant, avoir un partenariat global avec le groupe Casino. Donc, je récupère toutes les données de tickets de caisse que vous faites, avec un partenariat du coup avec 3A qui gère du coup le fichier des cartes grises, avec des partenariats, je disais, avec Rakuten ou avec La Redoute par exemple. Donc ça veut dire que pour une personne qui arrive sur MyTF1 consulter par exemple son replay de Koh Lanta, je connais son sexe, je connais son âge, je sais ce qu'elle a acheté chez Monoprix, je sais ce qu'elle a acheté sur Cdiscount, je sais quelle voiture elle a. Donc on a, si tu veux, un nombre de données qui est assez fort pour que je puisse proposer, quand on vient sur MyTF1 et qu'on est annonceur, je voudrais faire une campagne de pub dans un contexte qui est super, c'est celui de MyTF1, avec des KPI, des hard KPI de vidéos qui sont bons, c'est super aussi. Mais je peux également maintenant cibler, j'ai envie de dire, très efficacement également ma campagne.
Je t'entends dire, je connais la voiture qu'elle a. Cette donnée-là, tu m'en as pas parlé tout à l'heure. C'est pas la donnée qu'on demande quand on s'inscrit.
Alors, non, exactement. Exactement. Alors, moi, j'ai pas mal de données first party et l'avantage que j'ai avec cette donnée first party que j'ai pu avoir par le biais du login, c'est d'avoir un pivot qui est assez fort. Et ce pivot, c'est une adresse mail. Et ce pivot qui est une adresse mail, si tu veux, quand tu as une adresse mail, cette adresse mail, tu peux la reconnaître. J'ai le nom, prénom également, mais tu peux la connecter avec n'importe quelle base CRM à côté ou n'importe quelle base qui existe. Il y a des bases qui existent quand tu t'inscris chez Zara, chez Sephora, tu vas donner ton nom, prénom, ton adresse mail. Mais c'est également la même chose quand tu prends une carte grise, par exemple. Et donc, c'est tout ce travail d'enrichissement. C'est si je n'arrive pas à l'avoir en first party, tout du moins, ce que j'essaie d'avoir en first party, c'est au moins un pivot qui est ici l'adresse mail, qui est un pivot pérenne et technologiquement fiable qui me permet ensuite de me raccrocher avec n'importe quelle data externe.
Ça, c'est la third party. On est d'accord.
Ça, c'est de la, voilà. Ça, c'est de la data que j'appellerais même un peu seconde, elle est partenariale. Mais je vais utiliser, si tu veux, un pivot que j'ai eu grâce à ma first party, qui est l'adresse mail, pour ne pas avoir ces problèmes qu'on peut connaître de data third party et de cookies qui sont un peu banco, si bancal se conjugue au pluriel. Voilà. Donc, je vais utiliser ça derrière. Mais, donc, si je reprends sur la partie monétisation un petit peu, hein, sur ce que je vends concrètement dans mes campagnes. Moi, dans mes campagnes, c'est 2/3 de socio-démo qui est demandé.
D'accord. Ce qui finalement est classique.
C'est assez classique. Alors, il y a plusieurs raisons à ça sur la partie socio-démo. Premièrement, c'est l'historique. Hein. Ça a été la donnée historique qu'on a, c'est le socio-démo. Deuxièmement, c'est la seule data qui est, on va dire, facilement mesurable et quantifiable. Il y a des études internationales, ça s'appelle DAR chez nous, donc Digital Ad Ratings, qui est une étude internationale qui est proposée par Nielsen et qui permet de mesurer la qualité de cette donnée. Et ça permet du coup de le socio-démo est devenu, on va dire, le grand standard et la grande demande de la part des annonceurs.
Ce qui veut dire au passage, on l'avait presque oublié, mais pas vous en télé, mais on revient finalement, le panel est en train de revenir, parce que là, tu es en train de parler d'une méthode qui est une méthode classique de l'époque où on faisait du media planning. On ne pouvait pas compter sur la donnée utilisateur.
Un peu différente, si je peux dire. En gros, donc t'as d'un côté une data déterministe et qui est assez sûre. Moi, c'est le login. Et pour que le marché puisse vérifier si vraiment il a bien ciblé, hein, le marché il va pas aller sur Médiamétrie Net Ratings et regarder les résultats. Le marché, pour vérifier que ma donnée, j'ai bien ciblé des femmes de 25 à 49 ans. Il y a un outil qui est proposé par Nielsen qui s'appelle donc Digital Ad Ratings, ou son petit nom c'est DAR, et qui va regarder du coup. Donc c'est basé grosso modo sur votre compte Facebook et ce que vous avez renseigné sur Facebook, et ça va donner en temps quasi réel à l'acheteur via une plateforme, il va pouvoir suivre le taux d'atteinte sur cible. Si je fais de façon assez simple, hein, femme 25-49 ans, c'est la grosse donnée d'achat. Quand vous faites une campagne chez un éditeur en moyenne, ce que va te dire Médiamétrie Net Rating, c'est qu'à peu près 30% des gens qui sont des femmes de 25 à 49 ans que tu vas avoir, que tu auras touché. Quand tu passes par quelqu'un qui a un login, tu vas être plutôt à 80%.
Il y a une question dans le chat. Je voulais pas trop aborder les questions juridiques, mais je vous ai menti en fait. Comment elles arrivent déjà, mais on va préciser. Comment s'assure-t-on du consentement pour recouper ces données? C'est une question de Yannick Roth. Comment s'assure-t-on du consentement pour recouper ces données? Est-ce que c'est chaque base ou les partenaires qui assurent que le consentement est OK?
Bah, en fait, c'est le publisher, c'est-à-dire que le consentement, évidemment, là, on est en train de parler de, comment dire, d'astuces technologiques pour pouvoir continuer à faire de la publicité, mais évidemment, il n'y a aucune astuce concernant la législation, il faut la respecter. Et typiquement, c'est au publisher de recevoir en fait, le consentement de l'internaute à travers sa CMP durant la première X visite de l'internaute. En fait.
Voilà, CMP, Consent Management Platform. Et c'est clair que là, dans ce débat, on est en train de parler de first party data. Donc, c'est vrai que si on reste logique, on reste dans le périmètre de l'éditeur. Donc, pour répondre à la question, là, on est dans un débat où le consentement sur la first party data, ben, c'est l'éditeur qui en est responsable. Mais c'est vrai que l'exemple qu'a pris Paul, il sous-entendait que dans certains cas, effectivement, il pouvait travailler avec des partenaires et de la first party data. Et là, le consentement, la question peut être posée à celui qui apporte la donnée. Mais on va dire, c'est l'autre cas de figure. Mais en tout cas, là, tant qu'on parle de first party data, c'est tout le point. C'est bien le point fondamental. On est dans le périmètre de l'éditeur, la responsabilité sur le dos de l'éditeur, quelle que soit la donnée. Ouais. Continuez. Pas de souci, Yannick. Je ne cherche pas à totalement éviter les questions juridiques. On sait qu'elles sont importantes. Le point, c'est que on essaie d'être sur un domaine marketing. Pour une fois, Grégoire, est-ce que là, finalement, le sujet, c'est aussi que veut le marché, en fait ? Vous êtes capable de produire un certain nombre de données, c'est ce que vous venez d'expliquer. Côté demande, comment on qualifie la demande ? Est-ce que tous les matins, la demande des annonceurs, elle est très, très spécifique ? Ou est-ce qu'au contraire, ce côté un petit peu conformiste, je dirais, standard, de la donnée standard dont on parlait, c'est tout simplement parce que le marché, il veut ça en priorité ?
Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. C'est beaucoup encore sexe, catégorie socio-professionnelle. Un petit peu d'intentionniste, comme sur l'auto, ça peut arriver forcément. Après, on reste quand même sur les trucs très, très classiques le plus souvent. Après, il peut y avoir des demandes très micro de temps en temps, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Le gros du business est quand même sur les trucs très, très classiques.
Ça veut dire que la stratégie, quand vous parlez de segments, en gros, vous savez que, je sais pas, il y a une quinzaine de segments à créer qui sont facilement monétisables, ou ça veut dire que des segments, vous en faites une cinquantaine, et non, c'est quand même plus extensible à volonté. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment ça se passe ?
Clairement, on peut le faire à voler sans problème. Donc, on en crée quand on a les briefs, mais on n'en crée pas des centaines par jour. Après, on en a qui existent déjà, qu'on a créé, on les enrichit un petit peu, on peut faire d'autres croisements, on peut les faire changer, les faire évoluer. Mais voilà, on en a une base qu'on utilise relativement souvent et une autre qu'on crée à la volée, mais on n'en crée pas des centaines par jour. On est quand même sur des choses très, très classiques. Après, il y a aussi des annonceurs qui commencent bien à comprendre et bien travailler avec nous, qui, eux, font un petit peu leur course aussi sur les mots-clés. Eux ont réfléchi aussi de leur côté à comment ils voulaient croiser les mots-clés, etc. Donc, ils sont aussi force de proposition sur ce qu'on va aller cibler, quoi. Donc, ça peut arriver aussi. Pas tout le temps, mais on a ce genre, ceux qui comprennent bien et avec qui on a des super relations, ça se fait aussi. Ouais.
Comment on mesure les performances, encore une fois, sur les types de données que vous avez commenté un petit peu, et quelles sont les données les plus efficaces ? Je ne sais pas si on peut s'exprimer ainsi, mais quel type de données le plus efficace avec le recul que vous avez ?
Moi, je vais te dire chez moi, hein, c'est très, très socio-démo, et même, je pense, un point qui est important pour, surtout s'il y a beaucoup d'éditeurs, c'est même te dire, est-ce que la data, est-ce qu'il y a la monétisation de la data, est-ce que tu vois rentrer dans un projet data fort, est-ce que ça me fait gagner de l'argent, est-ce qu'il faut que je demande à ma régie beaucoup d'argent parce que j'ai permis de récolter de la data. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est une question un peu importante. Hein. Un des points à voir, si tu prends l'univers concurrentiel de la data, c'est qui ? On va dire, c'est même quelles seraient les meilleures data ? Ça pourrait être, on pourrait dire, celle de Google, d'un Amazon ou d'un Facebook. Concrètement, comment est-ce que Google, Amazon, Facebook vend sa data ? Si tu prends les outils de Google ou les outils de Facebook, la data est offerte. On va dire, c'est à l'intérieur, dans le package, quand tu achètes chez eux, c'est offert. Quand tu prends Amazon, la data est payante, mais ça coûte plutôt à peu près 50 centimes d'euros CPM. Donc ceux, tu vois, sur lesquels les régies pub sont confrontées au quotidien, c'est quand elles arrivent, généralement, l'offre des régies pub est assez simple à comprendre. Hein. Tu achètes un média nu, en règle générale, hein. Tu achètes un média nu, et si tu veux mieux cibler, les régies te demandent une surcharge, donc une majoration. Et cette majoration, du coup, est souvent assez mal vécue par les acheteurs qui vont se dire, mais comment ça se fait que chez Amazon, ça coûte 50 centimes, chez Google et Facebook, on ne me demande pas de majoration, donc c'est toujours compliqué. Et en règle générale, les éditeurs, enfin en tout cas les régies des éditeurs ont du mal, en tout cas à valoriser ou à monétiser leurs données. Chez nous, moi, chez TF1, moi j'ai la chance de pas être du tout dans ce cas, donc voilà, moi j'ai 60%, hein, 60% de mes campagnes qui sont vendues avec de la data. En moyenne, c'est une augmentation de 50% du CPM, donc on est arrivé à réussir, on va dire, ce shift. C'est pas le cas de tout le monde, et très loin de là.
Ça veut dire que tu dis augmentation de 50%, le fait d'utiliser de la data permet de
vendre 50% plus cher. Mais voilà, mais pourquoi en fait moi j'ai cette chance? Il y a plusieurs choses. Si tu veux que ça soit un grand, on va dire un grand succès, il faut que tu aies une data exclusive qui se retrouve peu sur le marché, qui soit volumique et qui soit mesurable. Moi, j'ai ça avec le socio-démo. 27 millions de logués, c'est quand même suffisamment assez gros. Le socio-démo, c'est la grosse demande du marché, et de la partie loguée, il n'y en a pas partout. Le jour où le login arrive partout, peut-être qu'elle aura moins de valeur, mais à date, en fait, elle est assez peu présente. Donc, on est quelques gros broadcasters qui avons la chance d'avoir pu se payer, entre guillemets, un socio-démo. Hein. On va dire un Koh-Lanta, ça mérite bien une adresse mail. Hein. Et donc, du coup, on va dire que, notamment les broadcasters qui sont entrés dans cette logique de, si tu veux, de login qui est mandatory, ça nous a permis, oui, nous, de gagner de l'argent. Est-ce que c'est le cas pour tous les éditeurs? C'est compliqué pour certains. La donnée comportementale est des fois compliquée. Et là où j'ai aussi, si je prends par rapport, il y a beaucoup de gens qui sont dans une, notamment plutôt dans des titres assez spécialisés. C'est beaucoup plus dur, si tu veux, de vendre de la data quand tu es toi-même spécialisé. C'est un peu, je ne sais pas si c'est opposé contexte et data, mais quand on va acheter sur Science et Vie, par exemple, quand on va acheter sur Marmiton, à la limite, la data, on s'en fiche. Le contexte, il est déjà suffisamment bon. Quand je vais acheter sur L'Équipe, est-ce que j'ai besoin de cibler à l'intérieur les hommes? Je ne sais pas. Quand je vais acheter sur Elle, est-ce que j'ai besoin de cibler les femmes? Je ne sais pas. Par contre, quand je vais acheter et que j'achète du Koh-Lanta, qui est du coup, ça s'adresse à toute la famille, oui, si on me donne un critère de ciblage en plus pour pouvoir un peu mieux tailler mon audience, ouais, ça fait un sens. Et c'est pour ça que chez nous, on est arrivé à réussir cette transformation, parce qu'on a aussi bien d'un point de vue architecture qu'un point de vue données qui m'a été mis à disposition, j'ai eu de quoi faire. Et puis, j'ai le contenu qui m'aide, à savoir un contenu qui a besoin d'être poli. Et donc, du coup, c'est pour ça que la data était une super réussite chez nous et qu'elle a bien été accueillie par le marché, notamment les augmentations CPM que j'ai pu faire passer.
Est-ce que j'entends ce que tu dis, et à la fois, j'ai l'impression que la notion d'exclusivité, c'est moins sur la pertinence d'une data que le fait qu'il y a la combinaison de plein de data et surtout le volume et du reach, non?
Oui, en fait, la question du volume, elle est cruciale. Hein. Tu ne peux pas te permettre, qu'en fait, tu as deux façons, et notamment même la partie de data sur la partie reach. Historiquement, comment ça se passait quand tu vends une campagne de pub? C'est l'éditeur qui faisait, si tu veux, le silotage. La campagne est vue d'une façon qu'on appelle gré à gré. Tu reçois un brief, tu fais ta campagne, tu fais tourner ta campagne et tu mets un ciblage, toi, côté éditeur. Donc, c'est toi qui avais la main. Et ce qui s'est passé, c'est que si tu as un petit site et qu'en plus tu commences à cibler dessus, et c'est microscopique. Et petit à petit, en fait, la main, on va dire, la possibilité de polir tes campagnes en mettant de la data, elle a commencé à passer côté acheteur. Et c'est l'acheteur qui, de son côté, à travers le programmatique et à travers son outil d'achat, c'est lui qui met la data de son côté. Et lui, il est un peu moins bloqué, on va dire, sur le reach, parce que quand tu es acheteur et que tu peux acheter sur tout Internet et mettre une data, tu as moins ce problème-là que quand tu es un petit site tout seul et que tu mets une data.
D'accord. Grégoire, toi, tu veux, pour toi, quelle est la data qui a de la valeur ajoutée, ou si tu veux compléter ce que dit Paul?
Non, c'est celle qui fonctionne, hein, qui permet que le client final soit content. On peut parler de CTR dans un premier temps, mais de qualité de la visite, de transpo, etc. C'est pour ça qu'on peut être challengé. Si on fait la campagne avec data et qu'il n'y a pas de meilleure performance qu'une campagne sans data, ça n'a pas un intérêt énorme, donc pour moi, c'est là où il faut que ça fonctionne, que ça apporte de la transfo in fine quand il y a une vente ou un modèle de vente derrière.
On va discuter de comment on va chercher la data qu'on n'a pas, justement par défaut, avec nos deux autres invités. Juste avant, j'ai une petite question à la fois technico-juridique. Vous avez tous les deux, Grégoire et Paul, vous gérez en fait un périmètre avec plein de sites, beaucoup de reach. À la fois, vous travaillez avec beaucoup de données contextuelles, donc des données qui viennent de l'analytique. La régulation actuellement, enfin les contraintes apportées par la CNIL et tout ce qui est e-privacy sur les outils analytiques, qui entre autres, en théorie, nécessite d'obtenir le consentement de l'utilisateur pour mesurer, par exemple, les mêmes données basiques, mais entre plusieurs sites. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si vous voulez suivre un utilisateur, ce qui est exactement ce que tu sous-entendais, Grégoire, quand tu dis que tu as 2,5 millions de profils dans ta base, ça veut dire que toi, tu considères que toutes les données que tu vas obtenir d'eux, tu vas les obtenir de toute la navigation et la capacité à faire naviguer tes utilisateurs sur toutes tes marques, etc. Donc, tu as besoin de les suivre. Tu me dis si c'est faux, mais c'est comme ça que je l'entends. Est-ce que la contrainte qu'on est en train de subir sur les outils analytiques, est-ce que vous la percevez ? Enfin, quel est le degré de risque pour vous empêcher de travailler ?
En réalité, il peut y avoir un autre risque. Enfin, on parle de l'analytics, mais quand on part du principe que l'ad server, c'est la même chose, au final, c'est tout aussi dangereux et important. Aujourd'hui, un ad server ou un outil analytics, c'est la même loi derrière par rapport aux cookies, etc. Donc, on part du principe que voilà. Après, sur le contextuel, pour l'instant, il y a moins de sujets par rapport à ça. Je parle de contextuel sur le site, comme j'expliquais tout à l'heure, prenant les mots-clés. Après, c'est forcément lié à notre serveur à un moment donné. Donc oui, ça pose question, ça peut réduire la chose.
Vous l'avez évalué ou vous avez déjà mis en œuvre, de toute façon, les restrictions, les consentements liés aux cookies analytiques, parce qu'on parle souvent de la pub, c'est pour ça que je dis ça. On parle peu en public, en général, du cookie analytique. C'est juste l'occasion d'avoir un peu votre retour là-dessus, de savoir si potentiellement ça va vous empêcher de bosser ou ça va réduire votre potentiel.
Non, moins que l'ad server. En réalité, nous, c'est notre CMS qui est branché directement dans notre ad server. Donc, le seul problème, c'est si l'ad server n'a pas le go, qu'on ne peut plus rien faire. Après, sur l'analytics, moins, parce qu'en réalité, on a notre base de données par rapport à notre CMS, etc. On peut créer nos segments à part, donc il n'y a pas à se pallier à un analytics tiers. Et pour moi, pour l'instant, le contextuel, ce n'est pas du segment comme de la data. Peut-être que ça devient, il y a des rumeurs, etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Après, je ne suis pas juriste, donc voilà.
Alors attention, non, mais sans être juriste, bon, vous savez tous que un jour, la note juridique, vous la recevez, il faut vous mettre au carré. Et Paul, tu... Est-ce que voilà, c'est un sujet pour vous ou pas ?
C'est un énorme sujet. Bon, après, il y a plusieurs gros éléments. C'est vrai que de toute façon, soyons honnêtes, hein, les taux d'opt-in à 99%, c'était quand même un peu louche, hein, quand on a des taux d'opt-in à 99%. Il n'y a que dans quelques élections présidentielles dans des pays un peu bizarres qu'on voit ça. Donc de toute façon, ça faisait quelques temps qu'on savait que ça allait être compliqué. Et effectivement, si on a des difficultés à réclamer, en tout cas des opt-ins, ça aura une incidence forte sur le chiffre, tout en sachant que là où on a de la grosse, enfin une grande chance si on regarde d'un point de vue macro, moi de mon point de vue, j'ai une énorme incidence, hein, parce que, bah, comme je te dis, 60% de mon chiffre est fait avec de la data et qui me rapporte 50% CPM en plus, donc j'ai une grosse survaleur. Par contre, si tu regardes de façon un peu macro, c'est de te dire, si, admettons, dans le pire des cas, hein, la data n'existe plus. Voilà, moi c'est vrai que je vais être triste parce que j'ai cette survaleur là qui marche très bien, mais au global, qui va être le plus perdant? C'est les personnes qui n'ont pas de contexte. Est-ce que tu vas acheter sur Facebook si tu n'as pas de data? Bien sûr que non. Est-ce que tu vas acheter sur des sites sans aucun contexte? C'est la data est juste, on va dire, une deuxième jambe. Tu dois avoir ta jambe du contexte, c'est quand même toujours là. On t'achète pour la qualité de tes contenus. Moi, je vends un sponsoring sur Quotidien. On vient pour acheter Quotidien, par exemple. Donc, ça, c'est des choses qui sont fortes. Quand on va se mettre à acheter Marmiton, à acheter Science et Vie ou à acheter Gala, c'est parce qu'on vient acheter avant tout un contexte. Donc, je dis pas que la fin de la data, s'il devait en avoir une, serait une bonne nouvelle pour nous, mais en tout cas, dans tous les cas, ça serait pas nous, entre guillemets, en tout cas, éditeurs avec des contenus de qualité qui seraient les plus à plaindre. Quand on met et qu'on est TF1, et à la limite, c'est plutôt pas mal, quand on est TF1 et qu'on met 1 milliard dans les contenus, je peux me dire que oui, sans la data, je peux quand même vivre. On a très bien vécu avant sans la data. Voilà, moi, j'en vis plutôt très bien et j'ai pu faire vraiment beaucoup de survaleur derrière. Après, c'est principalement d'autres types d'acteurs qui profitent et qui vivent de la data.
Alors, sous-entendu publicité, hein, mais s'il y avait.
Publicité, moi, toujours publicité.
Voilà, absolument. Exactement. Mais s'il y avait le directeur marketing responsable des abonnements, il dirait la même chose. Il a lui aussi besoin de la data pour aller chercher et identifier les abonnés. Du coup, passons à l'autre sujet. C'est-à-dire, là, on a bien compris ce que vous faisiez avec la data par défaut que vous obteniez. Et on a compris aussi que plus il y avait de data, plus ça ouvrait la porte à des nouveaux segments. Et c'est là que interviennent au moins nos deux autres intervenants. Alors, je sais pas, Laurent, par exemple, comment ça se passe à partir du moment où on veut à la fois enrichir le set de data, voilà, la first party data, on l'a sur quelques données, et l'éditeur, comment il fait pour enrichir ou structurer un petit peu tout ça? Quel est le un petit peu de marché vous avez là-dessus?
Oui, alors nous, pour le coup, alors je ne vais pas employer le terme d'enrichissement parce qu'on ne fait pas fondamentalement d'enrichissement. Nous, on va être plutôt on va avoir le rôle, pardon, de tiers de confiance justement entre le publisher qui a sa first party data et les différents acteurs programmatiques sur lesquels qui achètent les inventaires du publisher. Donc, on va jouer le rôle de pivot. Donc, fondamentalement, là, ce qu'on est en train de parler, c'est aussi à cause de la fin du cookie tiers, parce que finalement, toutes les actions marketing que le marché faisait, c'était grâce au cookie tiers. Et donc, il a fallu trouver une alternative, tout simplement. Et donc, le marché s'est repositionné sur la partie first party, sur la partie first party, justement.
Celle qu'on a par défaut.
Et finalement, c'est un mal pour un bien, en fait. C'est un bien pour un mal. Je ne sais plus dans quel sens il faut le dire, mais en tout cas, c'est bien pour le publisher. Dans le sens où bah, ça permet au publisher de s'accaparer de nouveau la valeur qu'il crée. Parce qu'auparavant, il déposait des cookies tiers, ça synchronisait un petit peu partout. Il perdait, en fait, l'essence même de ce qu'il produisait. Donc ça, c'est un premier champ ultra important, c'est contrôle pour le publisher. Enfin, et c'est pour ça aussi, tout à l'heure, on a parlé de 99% d'acceptation, ça a été aussi, il ne faut pas se le cacher, la perte de confiance, excusez-moi, des internautes par rapport à ces différents modèles, en fait. Donc, comment on recrée de la confiance vis-à-vis de l'internaute? Donc là, c'est avec l'avènement législatif qu'on connaît tous, en l'informant avec les différentes plateformes de recueil de consentement. Et donc, finalement, au global, alors c'est juste mon avis, il vaut ce qu'il vaut, mais au global, ça rebat les cartes dans le bon sens. Et donc, finalement, le publisher, il va avoir plus de poids dans la chaîne programmatique. Le gros problème, finalement, c'est...
Attends, pourquoi je t'interromps parce que je peux pas... Enfin, tu comprends, ouais. Ça, tout le monde va dresser l'oreille. En quoi il a plus de poids alors qu'il est tout seul au milieu de...
Bah justement, en fait,
De support.
Alors, en fait, bah, d'une part, parce qu'il recrée... la first party, il faut bien savoir que si on veut adresser la first party d'un publisher... on ne peut plus le faire à distance pour schématiser au maximum avec un cookie tiers. Il faut le faire avec un cookie first party du publisher. Donc ça, il va pouvoir... le publisher contrôle la création de sa first party. Le gros problème, en fait, c'est comment je fais un lien entre la first party du publisher et les plateformes technologiques. Parce que finalement, il va falloir trouver un pivot. On ne va pas envoyer un email chez une plateforme technologique en termes de privacy et de sécurité. À notre sens, en tout cas, on n'est pas trop d'accord avec ça. Et c'est pour ça que nous, on s'est positionné comme un tiers de confiance en créant un ID entre le publisher et les plateformes. Et on fait communiquer en tiers de confiance la data entre les deux.
Ce qui permet potentiellement aussi de se passer de cookies.
Alors, le cookie, c'est la première étape, finalement. Alors, en deux mots, pour expliquer le fonctionnement de notre techno à nous, c'est au moment du login et de l'inscription d'un utilisateur, on va un cookie first party rattaché à notre identifiant va être créé. Et ensuite, cet identifiant va être envoyé chez le publisher qui pourra le diffuser à travers son SSP, ses différentes technologies pour adresser son inventaire, en fait. Donc voilà. C'est aussi simple que ça.
En écoutant ce que tu dis et ce qu'on dit les deux enfin, qui représentent finalement des éditeurs, j'avais envie de poser la question à tous les trois. il y a une espèce de fantôme dans le marché du programmatique. Depuis que le programmatique s'est développé, il y a une partie des gens du programmatique du ad tech en général qui disent est-ce que finalement le mythe que dans la first party data des publishers elle soit tellement rare que elle est fabuleuse et du coup elle a une valeur, parce qu'elle a une valeur différenciante sur le marché, est-ce que ça c'est quelque chose honnêtement que vous voyez ou est-ce que c'est faux? Il y a des gens qui disent, il y a que les publishers qui pensent qu'ils ont une data que d'autres n'ont pas. C'est un peu la discussion tout à l'heure de la valeur ajoutée avec Paul. Est-ce qu'on rêve honnêtement, ça veut dire que Google a toute la data et on n'a pas besoin de s'adresser aux publishers pour savoir tout ça, ou est-ce que quand même oui, la question de la rareté se pose?
En fait, à mon sens, après je laisserai les autres intervenants parler évidemment, mais à mon sens, il y a déjà deux choses. Il y a est-ce que je mets tous mes œufs dans le même panier? Alors, ça fait un peu bon sens paysan, mais est-ce que je mets tout mon stack technique chez Google, chez Amazon, chez Facebook, ou est-ce que j'essaye de développer un open web pour pas être pris en otage, le terme est un peu fort, mais par une technologie ou par une entreprise. Moi, je pense que très clairement, les technos comme Google, Facebook, Amazon, etc., c'est des technos extraordinaires, mais que l'open web a aussi une valeur à apporter et nos publishers ont une valeur à apporter. De toute façon, la valeur des publishers, elle est indéniable, finalement, parce que de toute façon, s'il n'y a plus de publishers, il n'y a plus d'annonceurs et l'open web s'écroule. Donc, non, les publishers apportent une vraie valeur ajoutée. Après, cette valeur...
Tout le monde ne le pense pas, ce que tu viens de dire, tout le monde ne le pense pas. Hein. Je me permets de te challenger sur la question. Quand on dit publisher, le terme publisher, si on estime que c'est les médias d'information, justement, les trois quarts de l'inventaire part sur des sites qui ne relèvent pas de cette définition-là. Mais...
En fait, le truc, c'est... Alors après, ça dépend de quelle data, etc. Moi, par exemple, un publisher qui va pouvoir créer un identifiant unique et qui sera adressable sur l'ensemble des technos de l'open web, ça a une vraie valeur. Et on a tous nos clients souhaitent avoir ce type de data. Pourquoi? Parce que ça les rassure en termes de brand safety, enfin de qualité de la marque, etc., etc. Donc, pour le coup, moi, je suis foncièrement...
Foncièrement, tu penses que justement, finalement, là, toi, ce que tu es en train de dire, c'est que tu assures la présence de la marque via les données des éditeurs sur l'open web. Mais est-ce que finalement, c'est la valeur des données qui fait la différence ou c'est la marque?
Mais c'est un peu les deux, mon capitaine, si je puis dire, dans le sens où tout dépend en fait de la stratégie qu'on souhaite en marque, c'est-à-dire qu'on souhaite mettre en place. C'est-à-dire que... la marque va avoir une affinité avec tel ou tel publisher et ça va mieux fonctionner. Je pense qu'il y a eu des acteurs de l'open web comme des beaux acteurs français, je ne vais pas citer de marque, mais qui ont prouvé que leur campagne display fonctionnait très bien à l'extérieur des gros GAFA et donc qui ont prouvé la valeur de l'open web, tout simplement.
D'accord. Olivier, comment on enrichit toute cette donnée quand un client vient de voir? Comment on travaille?
Nous, on peut un peu témoigner des success stories de nos publishers, hein, des 115 publishers avec qui on travaille en Europe. Et en fait, ce qu'on voit chez ces publishers, c'est que la collecte de la first party et l'exploitation de la first party, c'est vraiment une stratégie qu'il faut mettre en place au niveau de toute l'organisation. Donc, ce n'est pas juste, parce qu'on parle beaucoup ici de publicité, ce n'est pas juste le précaré de la régie publicitaire, mais c'est en général un projet qui passe aussi par la rédaction, qui passe évidemment, on en a un petit peu parlé, par le département des abonnements, le marketing, le CRM, et aussi pour la régie. Et que donc, quelque part, à travers les actions, les expériences mises en place, notamment sur Qualifio, la collecte de la first party doit finalement permettre de servir les intérêts de ces différentes de ces différents départements. Si on voit la rédaction, on voit si je prends juste un exemple que j'ai adoré la semaine passée dans un tout gros journal belge qui s'appelle Utlast News. Vous savez que en Belgique comme ailleurs, les cafés et les restaurants sont fermés. Ils ont lancé une action qui permettait à tout le monde et surtout évidemment aux cafés et aux restaurants de répertoriés avec une photo, une petite description et un enregistrement de données aussi, évidemment, le restaurant qui permet de faire du takeaway. Voilà, en 24 heures, ça a donné plus de 20 000 uploads de photos et en 24 heures, 1 million de pages vues pour cette petite action qui a été faite. Donc, finalement, c'est
collecte... Ça apporte quoi d'un point de vue de data, par exemple, ce type d'opération?
Alors, bah, disons, ça apporte à deux niveaux. Ça apporte de la data. Alors, on ne parle pas de 27 millions, évidemment, de personnes qui vont s'enregistrer. On parle, dans ce cas-ci, de 20 000 personnes qui vont uploader une photo, qui vont s'enregistrer, qui vont probablement donner un opt-in pour une newsletter, qui vont dans la plupart des cas, créer un login. Donc, finalement, je disais, l'interactivité, la création de login, ça se fait sur la durée. C'est pas un one shot. On récolte pas 1 million de logins en un coup, mais ça se fait avec une stratégie qui s'inscrit dans la durée, sur toute l'année, où on va action après action permettre de récolter 20 000, 30 000, 50 000, 10 000 inscriptions newsletter, logins, etc. Mais souvent à travers de la créativité et aussi à travers d'une mobilisation. De la rédaction, du marketing, de la régie, ensemble. Un exemple, je termine peut-être là-dessus, qui moi, venant d'un média, m'a très positivement surpris, c'est, et ça se fait par exemple chez ABC en Espagne, dans le groupe Vocento, mais aussi dans d'autres médias, notamment en Scandinavie, c'est la rédaction qui lance en moyenne entre 10 et 20 sondages, des petits widgets de sondages par jour, sur n'importe quelle question d'actualité, et chaque sondage est suivi de deux questions sociodémo, l'âge et le sexe. Et du coup, bah, faites le compte, 20 à 30 ou 10 à 20 sondages par jour, tous les jours, avec comme levier chaque journaliste de la rédaction qui a accès à l'outil et qui peut lancer des sondages, ça fait beaucoup de données dans la DMP. Ça m'a très positivement étonné. Ça fait finalement des journalistes qui contribuent à l'enrichissement et à la collecte de données qui va servir in fine à augmenter la valeur de l'inventaire publicitaire. C'est pour ça que je disais, voilà, la réussite d'une stratégie de données, de collecte de données first party et d'exploitation first party, c'est vraiment un projet du média, de l'éditeur dans son ensemble, avec des targets, avec des éléments juridiques, avec des intégrations techniques. Et on sait que ça, c'est toujours quelque chose de compliqué, c'est de faire parler les différents outils entre eux, de faire s'intégrer les outils. Et donc, tout ça demande un peu de réflexion et un peu de mise en place.
Est-ce qu'en général, on fait appel pour vous plus pour qualifier une base qui est mal qualifiée au départ, c'est-à-dire on n'a pas posé toutes les questions qu'on aurait voulu et pour avoir les données dont parlaient nos deux autres invités, ou est-ce qu'on fait appel plus pour vous pour aller chercher de la donnée plus spécifique qu'on aimerait rajouter à la DMP?
Les deux, c'est vraiment les deux. Ça peut être de la donnée DMP, effectivement, dans le cas dont je vous parlais, avec un enrichissement sur l'âge et le sexe, mais ça peut être aussi des objectifs. On a par exemple des clients qui disent on voudrait créer cette année 100 000 nouveaux logins sur notre média. Donc voilà, comment est-ce que, en créant justement de l'interactivité, il y a moyen de générer, de stimuler la création de logins pour atteindre notre objectif. Idem pour des inscriptions newsletter, par exemple. C'est dire, voilà, tiens, à travers ces actions interactives, on a comme objectif de créer X milliers de nouveaux inscrits newsletter. Donc, c'est pas des choses qui sont forcément très complexes. Hein, c'est beaucoup de bon sens, c'est beaucoup de créativité aussi, mais ça peut servir des objectifs à la fois de collecte, de login, de newsletter, mais aussi de rajouter un numéro de téléphone, un âge, un genre aussi, par exemple.
D'accord. Question pour Grégoire et Paul. Tout à l'heure, on a évoqué super rapidement la notion de second party data. Dans un univers où la third party data, on est tous d'accord, je crois, devient très compliquée, en gros, elle ne se balade plus, est-ce que la second party data, c'est-à-dire le fait que vous passiez un accord avec un partenaire qui, lui, je sais pas moi, les garages Renault, qui vous apporte des données sur les gens qui sont en situation d'acheter des voitures, hein, je dis une bêtise, mais à la fois c'est un bon exemple. De mémoire, il y avait les exemples des des accords entre les déménageurs et les opérateurs téléphoniques, parce que avoir l'information de celui qui va déménager, c'est forcément quelqu'un qui va vouloir installer une ligne téléphonique ailleurs, etc. Est-ce que, voilà, dans un monde où il n'y a plus de third party data, ou en tout cas ça devient compliqué de l'exploiter, la second party data est quelque chose qui est amené à se développer plus, ou est-ce que non, ça reste opportuniste?
Bah, si tu prends d'un point de vue technique, hein, seconde partie, third partie, même combat, hein, des cookies qui se baladent, même si on s'est tapé dans la main et on s'est dit on se partage des éléments. Hein. Moi, je me partage des éléments, je t'ai dit, avec quelques éditeurs avec qui on se partage des données. Et ben, qui dit cookies qui se baladent et qui sont des cookies tiers, dit c'est coupé. Et c'est pour ça que ça m'amène. Et puis, je reste souvent un peu, peut-être des fois un peu en boucle sur le login, mais le login, outre le fait que ça m'amène concrètement de l'argent, hein, je te disais 50% de CPM en plus, hein, parce que j'ai le socio-démo derrière. Ça m'apporte également un identifiant qui est pérenne. Et cet identifiant, donc, qui est, ça peut être l'adresse mail, ça peut être le nom et le prénom, mais en tout cas, c'est ce type d'identifiant qui a fait le succès. Donc, ça s'appelle, hein, chez les GAFA, ça s'appelle souvent custom audience, par exemple, chez nos amis de Facebook. Et c'est la possibilité de plugger directement ton CRM et du coup ton adresse mail. Et tu vas retrouver l'adresse mail de la personne chez Facebook. Et ben, en fait, mon éditeur, sympathiquement, en m'offrant un login, il m'a offert un formidable, on va dire, outil publicitaire. Hein, c'est une arme publicitaire pour pouvoir cibler les personnes sur la donnée la plus demandée par le marché, qui est le socio-démo. Mais c'est également un formidable outil pour essayer d'aller un peu plus loin et de contrebalancer ce problème de cookies-less et notamment de cookies-sœurs qui nous pend au nez. Hein.
D'accord. Au passage, il y a l'initiative du geste du login unique, le pass média, dont TF1 est un des supporters. Je rappelle, parce qu'il y a plus de malentendus sur le marché, le login unique, ça n'est pas fait pour la collecte de données publicitaires. Il est fait justement, exactement, c'est du pur SSO. C'est pour faciliter le processus de connexion et le processus d'acquisition de l'email. Et après, chaque éditeur a sa propre DMP. Ça n'est pas, je dis ça parce que j'ai beaucoup de questions qui remontent là-dessus. On n'est pas dans un process où il y aurait une DMP qui se partage entre tous les éditeurs. C'est pas du tout ça le process. On est dans un SSO. Et c'est là où tout ce que vous dites fait sens. C'est-à-dire que vous commencez à travailler quand vous avez l'email et vous agrégez un certain nombre de données parce que vous savez qu'il y a une personne unique qui est derrière. Et ça, c'est parce que la personne est loguée que vous le savez. D'où le projet passe-média des éditeurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter des choses sur cette question du login unique?
Juste pour dire qu'en tout cas, nous, c'est ce qu'on voit aux États-Unis, c'est l'avènement du login sur les sites publishers pour créer une clé d'identification de l'internaute, tout simplement.
Après, il faut pouvoir te le permettre, hein, concrètement, et puis c'est bien parce que ça remet le contexte, la force du contexte et investir dans les contextes. C'est que si tu fais juste de la reprise de dépêche ASP ou si tu apportes en fait peu de valeur, on va te demander de te loguer. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire bah non, je vais aller le voir chez le copain. Alors que si on te demande il faut te loguer, mais en échange tu as un contenu de qualité, ouais. La réponse est oui, tu vas y aller. C'est un peu comme en fait quand là actuellement le cas se pose avec les adblockers. Des fois tu arrives sur un site, tu as un adblocker, on va te dire bah écoute, c'est pas possible, hein, tu rentres pas chez moi parce que j'ai quand même besoin d'argent. Soit tu vas voir l'information, ou soit si elle est exclusive, eh ben, t'enlèves ton adblocker. Donc c'est bien parce que tous ces éléments de login te ramènent en fait sur la qualité du contexte et la qualité d'arriver chez un éditeur ou chez un autre. Moi, chez TF1, évidemment, ben, j'ai la chance de pouvoir profiter des contenus de l'antenne. Donc j'arrive bien à me faire dedans. Mais voilà, il faut que les éditeurs arrivent à se différencier dans leur proposition de valeur pour pouvoir imposer du coup un login.
Au passage, si le login se généralise et que ça saoule tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce que les gens remplissent n'importe quoi et quelque part, quelle est la stratégie si on veut conserver une qualité en tout cas,
après, c'est quand même pas, en toute objectivité, c'est quand même pas très embêtant. Hein. Ton login, tu le fais une fois. En plus, les gens sont plutôt sympas et on t'oblige pas nécessairement à le remplir de façon, on va dire, avec ton clavier. T'as souvent, soit avec un Facebook Connect ou n'importe quel autre signing à côté. C'est, on va dire, ce qu'on demande à la personne, c'est pas non plus, voilà. Effectivement, si on te demande un champ de formulaire avec 50 champs, bah, je peux comprendre. Si on demande juste ton sexe, ton âge, parce que, bah, ça, j'en les besoins, on va dire, publicitairement, plus ton adresse email, ça reste super raisonnable par rapport à la qualité de contenu que tu vas pouvoir trouver derrière.
D'où la stratégie que dont parlait Olivier, c'est-à-dire on fait le marketing en plusieurs étapes plutôt que tout demander à l'entrée et faire une barrière d'entrée.
C'est la notion d'échange de valeur aussi, c'est qu'est-ce que les gens sont prêts à donner comme information par rapport à qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme valeur ajoutée ou comme service. Il faut que ce soit équilibré.
Je vous propose, on termine un peu sur la prospective, justement, ce que vous voyez un petit peu sur les arrivées sur les prochains mois, années, j'ose pas dire années, mais bon. Grégoire, pour toi aussi, le login unique, c'est une tendance lourde.
Ouais, c'est moins un sujet sur le login aujourd'hui. Après, si on arrive à trouver où tout le monde, un truc global pour tout le monde, pourquoi pas. Aujourd'hui, nous, le login, il peut être un site avec une énorme valeur ajoutée où il y a du contenu type science et vie, par exemple, qui est sur un modèle paywall. Après, les autres titres sont super, hein, Grazia, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, ça ne vaut pas le coup de se loguer. C'est difficile quand même de se loguer sur ce genre de site grand public. Donc après, avoir l'évolution sur quelque chose de plus global, etc. Mais aujourd'hui, difficile quand même sur notre.
Une question annexe, mais est-ce que là on parle de first party data, de données contextuelles qui sont pas nouvelles dans l'historique des éditeurs, mais dans le monde programmatique qui était basé plus sur les données personnelles, c'est quelque chose d'un peu nouveau, et on est à un moment où le marché il sait pas encore si ces données contextuelles finalement elles sont capables d'être aussi bien valorisées que les données personnelles, enfin je le résumerai comme ça. Quel est votre sentiment là-dessus? Et c'est en travaillant l'intelligence, je dirais, des supports et avoir une meilleure connaissance des lecteurs, de leur comportement, etc. Est-ce que ça permettrait de compenser les limitations que tout le monde va avoir sur finalement le ciblage, sur les données personnelles, sur lesquelles le programmatique avait quand même misé, hein, ce qu'on appelle l'audience planning. Est-ce que, comment vous voyez un petit peu ces deux rapports de force?
Si je peux commencer là-dessus, et puis après je pense que tout le monde aura son avis. Déjà, côté annonceur, hein, je trouve que de toute façon la donnée est un peu plus est toujours bien prise, hein, et ça me ramène d'ailleurs même sur le socio-démo par exemple, hein, comment achète maintenant Procter? Souvent Procter est passé, hein, notamment pour son achat vidéo, à une logique qu'ils appellent chez eux VTC. Donc voilà, donc c'est pas qu'ils sont fans de Uber chez Procter, mais donc il faut que ça doit être viewable. Donc le V, le C, c'est le completed, et maintenant ils ont rajouté le T qui est on target. Donc il faut que tu arrives à répondre à ces trois qualités si tu veux passer l'achat de chez Procter, et ton CPM, en fait, c'est plus un CPM un peu basique, mais c'est un CPM VTC, moi, que je fais avec eux. Donc viewable et completed, moi, ça, j'ai ça chez moi, étant donné la qualité des contextes, et puis j'ai pu rajouter le on target grâce à mon login. Ensuite, sur la partie cookie-less et difficultés techniques. Si tu prends, moi, je trouve, qui sont, on va dire, les personnes qui vont souffrir du cookie-less, hein, parce qu'il y a des éditeurs qui vont souffrir très fortement du cookie-less. Moi, je vois quatre grands éléments qui te font souffrir du cookie-less. Hein. Tu souffres du cookie-less si tu n'as pas de contexte. Si tu vends que en data, eh ben, effectivement, le cookie-less, ça va être compliqué. Déjà, si tu vends en contexte, c'est pas mal. Donc, si tu n'as pas de contexte, tu es mal. Si tu n'as pas de régie publicitaire qui fait le boulot, tu es mal. Si tu vends que en programmatique, attention, le cookie-less, il va te faire très mal. Si tu vends que en, on va dire, en audience planning, tu es très mal. Donc si tu n'as pas de contexte, si tu n'as pas de régie, tu es pas bien. Si tu n'as pas pu mettre en place et tu n'as pas pensé déjà à mettre en place une stratégie de collecte massive de données, tu vas pas être très très bien avec le cookie-less. Et si tu n'as pas pu et tu ne peux pas mettre en place de stratégie qui te permet de limiter le cookie wall par notamment et de mettre en place un cookie wall, hein, par notamment avec un login, parce que tu as une qualité de contenu qui est assez forte derrière. Voilà. Donc les personnes qui vont souffrir en fait le plus du cookie-less, c'est les personnes qui n'auront pas investi dans les contextes, qui n'auront pas investi dans les contenus, qui n'auront pas investi dans une régie forte. Là où, tu vois, je suis plutôt optimiste, nous, en tout cas pour notre côté chez TF1, je me dis, on met quand même 1 milliard dans les contenus, 70% du chiffre d'affaires, il est fait en direct par la régie, toujours beaucoup de gré à gré. J'ai un login avec 25 millions d'individus uniques, et dans ce login, en plus, j'ai une adresse mail qui me fait que je suis tranquille. Et dans tous les cas, si un jour, on peut faire des cookie walls, on pourra en reparler dans tous les cas. J'ai en tout cas une qualité de contenu derrière qui me permet de pouvoir en mettre un derrière. Donc, d'accord. Le cookie-less, c'est vrai que c'est une énorme menace. Après, ça dépend chez qui tu es.
Grégoire, tu es bien? Tu es bien chez iWorld?
Oui, cookie-less, forcément. Après, le contextuel va être au centre du truc pour maintenir les campagnes directes, les OPS, etc. Et tout ça, ça me fait un peu moins peur. Après, tout n'est pas noir ou blanc. On parle beaucoup du contextuel et ça marche et c'est cool et ça, on va beaucoup l'utiliser.
La question, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que tu penses que ça compense? Est-ce que ça marche mieux, justement, que cette promesse de ciblage basée sur les données personnelles qui est quand même à l'origine de la vague programmatique?
Programmatique en PG, etc., ça le fait même parfois mieux. même souvent mieux de ce qu'on a pu. Les pairs sont bien, etc. C'est cool. Après, là où il peut avoir un sujet, c'est quand même sur toute la partie open auction, tout ce qui n'est pas gré à gré, etc. Parce qu'on a beau avoir un contexte, tout ça, il y a quand même, on est quand même loin de brancher et de donner accès à cette donnée à l'ensemble des DSP, etc. Donc, après, ça peut se poser, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même des acteurs comme Google, Criteo, etc., qui ne vont pas crever, entre guillemets, du jour au lendemain. Donc, je pense qu'il faut quand même compter un petit peu sur eux. On n'en parle pas tous, et il y a quand même des initiatives qui sont déjà lancées, alors tout ce qui est avec les noms d'oiseaux, là, les Dovekai, Total Love, etc., qui vont aider. Il faut quand même compter, à mon avis, sur tout ça. Après, il y a des ID aussi qui peuvent être un sujet à l'avenir. Je pense que voilà, tout n'est pas noir ou blanc, ou 0 ou 1, et il faudra prendre en compte à l'avenir un peu tout, selon les canaux de vente, que ce soit le programmatique, les ventes directes, etc., selon les modèles et les business models de la monétisation. Parler de first party data, la first party data, à proprement parler, elle va beaucoup nous aider à monétiser, à faire de l'upsell sur nos abonnements, à vendre autre chose aux gens qui aujourd'hui sont abonnés ou achètent des choses au sein du groupe. Ben voilà, sur la publicité, j'ai quand même un tout petit peu de mal à croire que demain, Google va faire une croix sur l'ensemble des revenus de AdSense, qui est aujourd'hui la plus grosse régie du monde entier. Donc voilà, ça reste mon avis, mais voilà, il faut quand même pas oublier qu'il y a aujourd'hui Google et ce qui est là et qui existe et qui est présent chez la totalité des éditeurs et qui gagne de l'argent sur la totalité des éditeurs. Donc ça peut être vu comme l'ennemi, il faut pas être bossé qu'avec eux, etc. Voilà.
Tu dis ça, je pense que je crois comprendre. Tu me dis si j'ai tort, c'est parce que quelque part Google va être le dans un monde où il y a plus de faire de data qui circule. C'est Google qui va l'apporter, c'est un peu ça aussi.
Ça peut être une idée. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas déclaré, ils sont quand même partis sur des choses où il y a une part de contextuel dedans. Alors, il faut regarder sur les GitHub, etc., tout ce qui est sorti, l'initiative avant de Criteo et avant d'autres acteurs sur tout ce qui est avec les noms d'oiseaux, là, tourterelle, colombe, etc. Ça parle beaucoup de key value et il y a une partie de contextuel, une partie qui ne l'est pas, où tu crées des groupes, etc. Donc ça, il faut regarder plus en détail, je ne suis pas non plus expert sur le sujet. Après, oui, il y a une hypothèse qui dit que Google sortira un jour de son chapeau un ID unique et tout sera basé sur ça. Aujourd'hui, en réalité, ça, j'ai l'impression que ça commence, entre guillemets. C'est que mon avis personnel, mais je vois quand même pas mal de trucs passer, des sign-in Google, etc., qui sont bien poussés par certains sites, notamment aux États-Unis, etc. Donc, un sign-in Google, tout le monde est connecté à Google, tout le monde utilise G Suite. Voilà, je ne suis pas pro-Google pour un sou, mais voilà, je trouve ça... Ouais,
tu vois, arriver.
On les oublie souvent dans l'histoire. On croit sur les milliards de recettes publicitaires. Google, il y a des vidéos qui à moindre mesure, etc. Mais c'est le même sujet. On ne croit pas du coup à l'effondrement de l'open auction d'un coup à la fin du cookie. Après, je crois qu'il faut se diversifier et pas tout mettre. Pouvoir faire du contextuel, pouvoir gérer sa base CRM et voilà, et avoir une solution pour l'ID et être agile pour pouvoir utiliser le truc au bon moment. Quoi.
Laurent, toi, qu'est-ce que tu vois ?
Bah justement, moi, je vois et je le vis et je commence à le vivre tous les jours, des publishers qui se rassemblent, des publishers, des entreprises technologiques qui se rassemblent autour d'un ID, et c'est ce qu'on fait, nous, chez LiveRamp. On a annoncé il y a quelques jours que The Trade Desk, on pouvait bider en fait l'ID LiveRamp sur la plateforme The Trade Desk. Donc, ça va nous faire un afflux de clients massifs grâce à cette technologie. Donc, de toute façon, il ne faut pas se mentir. Si le marché ne se rassemble pas, si on ne trouve pas une solution d'ID unique qu'on propose en tout cas et qu'on ne met pas en place toutes nos forces finalement, eh ben, on mettra nos budgets chez nos amis principalement américains. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a des initiatives, on en porte une en tout cas, on essaye de faire en sorte que ça fonctionne, il y a une traction en tout cas par le marché, que ce soit publisher ou annonceur, essayons de la garder en fait, tout simplement. En tout cas, je suis assez optimiste sur l'écosystème Open Web.
Tu vois aussi la généralisation du login, même si toi en particulier c'est ton intérêt.
Ouais.
Est-ce que comme tendance tu le vois comme quelque chose qui ne reviendra pas en arrière ?
Alors, pour être très transparent avec vous, je le vois aux États-Unis parce qu'il y a un petit décalage de temporalité aux États-Unis. Mais durant toutes mes conversations avec les publishers avec qui je parle, ça rentre dans leur réflexion de manière très appuyée en fait. notamment avec le cookie wall qui va arriver, etc. etc. Ça,
oui, voilà.
Ça arrive. On est assez confiant. On est même très confiant.
Olivier, qu'est-ce que tu vois ?
Oui, c'est une époque intéressante. Il y a tout un écosystème qui a été chamboulé, qui est en train d'être chamboulé. Je pense que c'est compliqué de dire qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans parce que c'est un processus qui va probablement prendre un peu plus de temps pour se réorganiser. On voit quand même des choses intéressantes. Hein. Si on regarde un de nos clients en Hollande qui s'appelle NPO, qui est l'équivalent de France Télévisions version Batav, ils ont décidé de créer un nouvel ad server l'année passée en virant tout ce qui était third party data, donc tout ce qui était micro-segmentation, en ne faisant de la segmentation que sur le contexte, donc de manière un peu basique et un peu old school. Ben, on a vu qu'en 2020, alors qu'on est en pleine année Covid, ils sont en augmentation mois après mois de minimum 10% par rapport à l'an passé. Donc voilà, ils ont
programmatique, on est d'accord.
Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a du programmatique et du gré à gré. Je pense que les gens peuvent être créatifs et se réinventer. Le contexte est important. On voit aussi, alors il faut du volume, mais il y a moyen aussi de créer des segments en first party qui sont intéressants. On voit quand même de plus en plus de publishers qui créent eux-mêmes leur segment first party. On voit aussi chez nos publishers des choses intéressantes. Ce sont des publishers, les régies des publishers qui proposent directement des campagnes de lead gen à leurs annonceurs avec connexion directe, en l'occurrence de notre outil, vers le CRM de l'annonceur pour pousser du lead directement vers l'annonceur. On voit toutes ces initiatives de login comme Passe Média en France. En Belgique, on a essayé de faire ça, mais tout est toujours compliqué en Belgique, donc on n'a pas réussi. Mais c'est super intéressant comme alternative au walled garden de Facebook et autres. Mm-hmm. Donc, voilà, moi, je suis moins pointu dans la tech que certains des interlocuteurs, mais on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives très positives, très créatives qui voient le jour chez les publishers et on peut être effectivement optimiste.
Ok, je rappelle, j'aurais pu le dire au tout début, mais que la tendance de fond en achat programmatique, alors les stats venaient des États-Unis depuis l'année dernière, en tout cas, on a franchi la barre des 50% d'achats qui se font maintenant en priorité, en deal ID, sur des places privées, etc. Ce qui veut dire que, alors c'est beaucoup pour la vidéo, on est d'accord, mais il y a quand même une tendance de fond qui font que ce qui était l'open web, je sais pas, enfin en tout cas l'open exchange ou l'achat à l'aveugle, qui était un petit peu le fantasme de l'achat programmatique où on sait pas où la pub va arriver mais on l'achète sur des critères de données, la tendance de fond est en train de dire quand même que maintenant de plus en plus les annonceurs veulent acheter en contrôlant là où la pub va, enfin je l'exprime comme ça. Derrière, ça veut dire des deal ID, ça veut dire des achats sur des places privées, ce que tu viens de dire. Et c'est pour ça que qui dit d'acheter sur des environnements qui sont fermés dit qu'il y a un besoin d'intelligence sur ce qui se passe à l'intérieur de ces périmètres. Et la first party data répond à cette question, je crois. Voilà, c'était. Je fais la boucle par rapport à l'introduction de ce débat. Je vous propose on s'arrête là. Je vais pas vous retenir plus. Ça fait déjà presque une heure et demie. Je vous remercie. Je remercie à tous les participants d'avoir apporté un petit peu leur contribution et leur feedback sur leur manière de travailler. Merci à tous. Je crois qu'il y a eu plus de 90 personnes connectées, à tous ceux qui ont assisté à ce débat. Et je vous dis à bientôt avec d'autres conférences du geste sur probablement les sujets qui ont été évoqués et qu'il faudra suivre dans les prochains mois. Les fameux noms d'oiseaux. On en fera, je pense, des conférences en 2021. Merci à tous les invités, à tous les participants. Laure, tu veux intervenir ?
La conclusion est parfaite et en effet, on projette de prochains webinaires sur ces sujets très bientôt. Merci beaucoup.